Est-ce que vous aimez l'orgue comme ça ou pas? Ou pas? Oui, certains, oui. Nous continuons dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament. Et pour avoir un salut bien assuré, il faut comprendre comment on a le salut. Parfois, on trouve dans les églises des croyants qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes, pas sûrs de leur salut, qui hésitent dans leur vie chrétienne et qui parfois même laissent tomber. Ils ont des épreuves, ils ont des difficultés et ils disent, bon, finalement, peut-être que tout ça, c'est faux, peut-être qu'ils vont très loin même en rejetant plein de choses. Et cette épître aux Hébreux est écrite à des personnes comme ça. Alors c'est vrai que c'était des Hébreux en particulier, mais ça peut s'appliquer à des gens non hébreux, à non juifs. C'est des Hébreux qui avaient mis leur foi en Jésus comme Messie et ils avaient été attirés vraiment et touchés, mais c'était plutôt sentimental. Et ils voulaient garder leur bonne tradition qu'ils avaient avec le temple, les prêtres, les sacrifices, la religion juive avec tous ses codes, toutes ses traditions bien pensées par les rabbins pendant des siècles. Et ils n'étaient pas prêts à entrer pleinement dans le salut que Christ propose. Et c'est ce qui fait qu'un certain nombre sont même retournés en arrière. Hein. Ils ont dit non, finalement, non, je veux plus. Jésus n'est pas le Messie. Et ça ne sert à rien, il faut garder la loi. Et l'auteur inspiré là, de l'Épître aux Hébreux, il veut leur expliquer qui est Jésus-Christ et qui est le Messie, hein, Jésus le Messie. Et quel salut nous avons, comment on peut être sûr d'être sauvé. Et ce soir en particulier, on va voir un verset, donc on voit un verset ou quelques versets dans un chapitre à chaque fois. On va voir chapitre 8 et chapitre 9. Le chapitre 9 et chapitre 10. Alors, dans le chapitre 9, nous allons regarder à partir du verset 22. Hébreux 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous, devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin du monde, à la fin des siècles, Jésus a paru une seule fois pour effacer ou abolir le péché par son sacrifice. Alors j'ai lu plusieurs versets pour avoir un peu le contexte, mais peut-être vous allez me dire, le contexte, ça m'a plutôt perdu que qu'autre chose. Et en fait, il faut comprendre une chose, c'est que lorsque Dieu, l'Éternel, a révélé les plans du temple à Moïse, qu'on appelle le tabernacle en fait, parce que c'était un temple portatif qu'ils devaient porter dans le désert et démonter chaque fois qu'ils allaient ailleurs, hein. Mais ça s'appelle le temple portatif ou le tabernacle. Ce plan était en fait une image de ce qui se passait dans le ciel. Et le lieu très saint, qui est cette pièce interdite, cette pièce où seul le souverain sacrificateur pouvait rentrer une fois par an, symbolise la présence même de Dieu dans le ciel. Et donc, comme il fallait qu'un souverain sacrificateur entre chaque année aspergé de sang lui-même et aspergeant le coffre, avec le sang des agneaux, pour que les péchés du peuple d'Israël soient pardonnés pendant un an, c'est ça, c'était ça la loi, il nous explique que Jésus, en tant que souverain sacrificateur et en tant qu'agneau, il est les deux en même temps, est entré, non pas avec un sang d'animal, mais il est entré avec son sang dans le lieu très saint, une fois pour toutes. Et en faisant cela, il accorde le pardon des péchés à tous ceux qui croient de tous les temps pour toute leur vie et pour toute l'éternité. Mais il commence en disant, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et il y a beaucoup de gens qui sont troublés avec cette mention du sang. Ils disent, mais c'est sanguinaire, c'est barbare. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une époque de raffinement, de civilisation. Ça, c'était une époque de barbares. Et ils ne pensaient qu'au sang. Et est-ce que Dieu vraiment aime le sang? Et non, Dieu n'aime pas le sang et ce n'est pas par goût du sang. Mais il faut comprendre la valeur du sang dans la Bible. Si vous avez votre Bible, vous pouvez prendre dans l'Ancien Testament, Lévitique 17, 11, qui est le parallèle avec ce verset de Hébreu. Donc Lévitique 17, 11, c'est au tout début de l'Ancien Testament. Ce verset dit « La vie de la chair est dans le sang. Je voulais donner sur l'autel, donc l'autel dans le temple, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » Alors, encore une fois, ça peut-être demande une petite explication. Dieu a voulu que la vie soit dans le sang. Et le sang représente la vie. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais quand on voit du sang qui s'écoule d'un être vivant, d'un animal ou d'un être humain, on est choqué. Même, il y en a beaucoup qui tombent évanouis. Hein. Ils voient une goutte de sang qui sort. Parce que, pourquoi? Est-ce que le sang, c'est joli le sang, c'est une belle couleur rouge. Qu'est-ce qui choque quand on voit le sang couler comme ça? Ce qui choque, c'est que c'est la vie. La personne ou l'animal meurt. Il faut arrêter cet écoulement, il faut faire quelque chose. Et Dieu a placé la vie dans le sang. C'est pour ça qu'il a interdit aux Juifs de manger ou boire le sang. C'est pour ça qu'il a même interdit aux païens, puisque dans le livre des Actes, chapitre 15, verset 20, il dit « Recommande aux églises des païens de s'abstenir des viandes sacrifiées et du sang. » Pourquoi? Parce qu'on doit nous aussi voir le sang comme quelque chose de sacré. C'est la vie. Et chaque être vivant, hein, créé par Dieu, est sacré parce qu'il a cette vie pure, cette vie particulière. Et donc, le sang symbolise la vie et la mort aussi. C'est-à-dire quand le sang est coulé, est versé, c'est la mort. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il dit « Je vous ai donné le sang » sur l'autel pour qu'il serve d'expiation, parce que c'est par la vie ou par la mort, en fait, que le sang fait l'expiation. C'est lorsque un animal était tué, que son sang était versé, qu'il y avait l'expiation. Le sang payait les péchés. D'ailleurs, quand on lit l'explication comment on devait procéder dans le tabernacle, hein, le juif devait venir avec un animal, souvent c'était un agneau, et il devait le présenter au prêtre, on lui donnait un couteau, il devait mettre la main sur la tête et égorger pour que le sang coule. Et l'animal devait être vidé de son sang. C'est ce qu'on fait encore aujourd'hui dans les abattoirs. C'est tiré de la Bible, hein, cette idée de vider le sang des animaux. Il n'y a que quelques personnes bizarres qui mangent encore des animaux dans le sang, comme le canard au sang ou les choses comme ça, mais c'est vraiment spécial. Hein. Donc, le sang est sacré, le sang paye pour nos fautes. Alors, je fais juste une parenthèse au sujet des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah disent qu'il ne faut pas faire de transfusion sanguine. Ils pensent que, justement, le sang est tellement sacré qu'on ne doit pas le donner à quelqu'un d'autre. Que c'est ton sang et tu ne dois pas donner le sang à quelqu'un. Alors, d'abord, ce n'est pas écrit dans la Bible qu'on n'a pas le droit de donner son sang. Et surtout, là, il s'agit de continuer à vivre. Quand vous donnez votre sang, vous ne mourrez pas. Vous faites un don. Et ce sang même va donner la vie à quelqu'un. va permettre à quelqu'un de vivre. Donc, donner son sang par les transfusions est une bonne chose, parce que vous donnez la vie, vous aidez quelqu'un. C'est différent, là, du sang qui est expliqué, hein, qui est montré ici, qu'on ne doit pas manger. On ne doit pas manger le sang parce que ça symbolise la vie. C'est comme si vous méprisiez la vie de l'animal quand vous mangez son sang. Il y a deux justices, en fait, pour le mal que nous faisons. Il y a la justice humaine et la justice de Dieu. Quand vous commettez un crime ou un délit, ben, si vous êtes arrêté, vous êtes puni. Vous allez en prison, vous payez une amende, peu importe, vous êtes puni. Et heureusement qu'il y a cette justice immédiate, temporelle, terrestre. Mais il y a une autre justice aussi, à laquelle on ne pense pas toujours, c'est la justice de Dieu. Et cette justice de Dieu, ce n'est pas simplement sur la terre, c'est qu'elle continue après la mort. Et si j'ai commis des péchés, des crimes, des délits, du mal, et que je ne me suis pas réconcilié avec Dieu, que je n'ai pas été pardonné, gracié, lorsque je vais mourir dans mes péchés et je vais être condamné pour mes péchés. La justice de Dieu punit le péché jusque dans l'au-delà. Quel est le prix qu'il faut payer pour ces péchés? Si j'ai péché, quel prix, quelle sentence hein, je dois avoir? Est-ce que vous le savez? La mort. Romains, chapitre 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Donc, on pourrait dire, « Mais moi, j'avais essayé de me racheter. Je vais faire des bonnes œuvres. Je vais faire des pèlerinages pour Dieu. Je vais faire des jours de jeûne et de prière. Je vais lire la Bible pendant 48 heures sans m'arrêter. Je vais donner mon sang. Je vais aider des handicapés. Tout ça, c'est merveilleux, c'est magnifique. » Mais ça ne peut pas payer ma dette envers Dieu. Parce que pour payer ma dette, il faut que je meure. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu ne veut pas que je meure. C'est écrit dans la Bible. Hein? Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut qu'on vive. Dieu nous aime. Alors, si on ne peut pas payer nous-mêmes nos fautes par notre sang, il a fallu un autre qui paye avec son sang. Dans l'Ancien Testament, c'était les animaux. Et dès le départ, vous avez le sacrifice avec du sang. Dans la Genèse, juste après le péché d'Adam et Ève, il y a les enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel. Ils doivent présenter des offrandes. Pourquoi ils doivent présenter des offrandes? Parce qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'être réconciliés avec Dieu, d'avoir une relation nette avec Dieu. Et Caïn, il arrive avec ses fruits. Et il dit à Dieu, voilà, une belle corbeille de fruits. C'est pas beau, ça? Il y a des bananes, il y a des ananas, c'est coloré, c'est magnifique, ça sent bon. Et Dieu dit, je rejette ton offrande. Abel vient, lui, avec un agneau offert en sacrifice. Et Dieu dit, j'accepte ton offrande. Et Caïn est fâché. Alors, vu comme ça, effectivement, il y a de quoi se demander. Mais c'est arbitraire, c'est injuste. Pourquoi il refuse les fruits, il accepte l'agneau? Mais parce que ça voulait dire qu'Abel avait bien compris qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu sans avoir le sang qui couvre nos péchés. Et en offrant cet agneau, Abel offrait l'agneau qui donne sa vie pour lui. Abel, lui, il ne voulait pas de sang, pas de sacrifice. Il dit, j'ai pas besoin, moi j'offre les fruits, je les ai gagnés, hein. J'ai cultivé tout ça, je les ai cueillis, attention, c'est lourd, hein, c'est mes œuvres. Et Caïn, c'est vraiment le symbole hein, du croyant qui essaye de mériter son salut. Et on n'y arrive pas parce que Dieu rejette nos œuvres. Parce que nos œuvres ne sont pas suffisamment parfaites. Il faudrait être parfait pour que Dieu les accepte. Qui a des œuvres parfaites? On donne souvent aux enfants, on raconte l'histoire, des enfants qui disent « Mais est-ce que je peux mériter mon ciel? Est-ce que je peux mériter ?» Il dit « Écoute, admettons que tu veuilles être bien vu par ta maman et tu dis « Maman, je vais t'aider. » Alors maman étend son linge dehors, admettons qu'elle vit dans une maison, hein, les beaux draps blancs, les beaux sous-vêtements blancs, et le petit garçon qui a joué dans la boue juste avant, il dit « Maman, je vais t'aider. » Et il arrive et c'est gentil, c'est vraiment de bon cœur, il vient, il met ses mains et tout est à refaire. Tout est sali et c'est un peu au niveau adulte, pour nous, la même chose. Quand on dit à Dieu, je vais t'aider, je vais me sauver moi-même, je vais essayer de faire des bonnes œuvres. Mais tout ce qu'on fait tombe par terre. On ne peut pas mériter son salut. Il faut qu'il y ait la mort de quelqu'un. Abraham a dû offrir un bélier à la place de son fils. Dans l'Exode, il y avait les agneaux, il y avait la Pâque, il fallait sacrifier un agneau dans sa maison et mettre le sang sur sa porte. Là encore, on dit, oh là là, le sang, encore le sang. Et pourquoi il y a le sang dans toute la Bible? Parce que c'est la vie et la mort. Parce qu'il faut mourir pour être sauvé. Et il faut que la vie soit donnée, offerte. Mais ces agneaux, ces animaux préfiguraient, préparaient la venue de l'agneau de Dieu. Et ça, c'est Jean-Baptiste. Il a reconnu tout de suite. Et c'est fort. D'ailleurs, on voit que Jean-Baptiste était vraiment un grand, grand prophète. Parce que quand il a vu Jésus, il n'a pas simplement dit « c'est le Messie ». Il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il a compris que le Messie n'était pas simplement venu pour régner sur Israël ou pour faire des exploits. Il a compris que le Messie était venu s'offrir comme un agneau. Et tant qu'on n'a pas compris ça, le salut n'est pas clair. Le salut, c'est qu'un agneau est mort à ma place, a payé de sa vie. Il fallait qu'il meure. On pourrait dire, mais Jésus, il aurait pu simplement être fouetté et puis souffrir. Mais il ne fallait pas juste qu'il souffre, il fallait qu'il verse son sang. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Luc prend des détails, pour raconter comment le centurion a percé son côté. C'est un peu gore, comme on dirait aujourd'hui, pour certains. Il raconte comment le centurion se dit, tiens, il est déjà mort, c'est très rapide, et il prend sa lance et il perce le côté, là où est le cœur, et il y a du sang et de l'eau qui sortent, parce que le sang s'est séparé du plasma, de l'eau qui est dans le sang. Mais pourquoi il raconte cela? Pourquoi c'est important? Pourquoi Jean, dans son épître, dit que Jésus est venu avec l'eau et avec le sang? C'est parce que ce sang, c'est la vie du Messie, la vie du Fils de Dieu qui est livré pour nos péchés. Le sang de Jésus, c'est le sang du Fils unique de Dieu, c'est le sang du seul homme absolument pur. Si moi, je vais donner mon sang pour le péché du monde, ça ne va servir à rien. Parce que mon sang est impur, mon sang est entaché par le péché. Mais Christ étant pur, absolument saint, depuis sa naissance, son sang a une valeur particulière. Il y a beaucoup de cantiques de spirituels qui ont été composés. Le sang de Jésus ne perdra jamais son pouvoir, ou c'est par son sang qu'on est sauvé, etc. Pourquoi? Ce n'est pas qu'on aime le sang, c'est qu'on comprend que la mort de Christ a une valeur extraordinaire, une valeur éternelle. Et c'est ce qu'il dit dans ce passage. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Tout est purifié par le sang. Et il dit, Jésus est apparu pour abolir le péché une fois pour toutes. Il a aboli le péché. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il a effacé, aboli le péché. On peut dire, mais il y a encore beaucoup de péchés sur la terre. Et même dans ceux qui croient, il y a encore des péchés. Mais en mourant pour le péché, il a enlevé la puissance du péché. Celui qui croit peut être pardonné, purifié, et délivré même du péché. Et un jour, à la résurrection, nous serons totalement délivrés du péché. Ça, ça fait partie du salut. Quand je vais ressusciter, fini les péchés, fini les tentations, fini mes faiblesses ou mes faillites ou mes chutes, tout ça c'est terminé, je serai parfait. Mais comment je serai parfait? Pourquoi je serai parfait? Parce que Christ a payé pour moi. Parce qu'il a versé son sang. Parce qu'il a donné sa vie à la place de la mienne. Sans ça, je ne pourrais pas être parfait, je ne pourrais pas être débarrassé du péché. Sans ça, le péché serait toujours à nous poursuivre éternellement. Et c'est là la grande victoire de Christ. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de mal sur la terre, beaucoup de souffrances, beaucoup d'injustices, beaucoup d'horreurs que les hommes commettent et que Satan conduit. Mais il y a un jour où il y aura la justice et où il y aura l'élimination totale du péché, et c'est rendu possible par la mort de Christ. Le péché va disparaître. Et déjà, il peut commencer à disparaître dans ma vie. C'est ça l'idée. Je ne dois pas attendre la résurrection. Dieu veut effacer mes péchés et me donner cette certitude. Par ton sang, Seigneur, je suis réconcilié. Tu as expié mes fautes. On parle beaucoup, hein, des fois dans des films ou même dans la vie quotidienne, hein, oh là là, il faut que j'expie. Hein, il va falloir que j'expie mes péchés ou mes fautes. Et on dit ça un peu d'un ton ironique. Mais on n'a pas besoin d'expier nos fautes parce que Christ a déjà tout expié, tout payé sur la croix. Le deuxième passage se trouve en Hébreux chapitre 10. Alors j'ai dû choisir un verset, mais ça, c'est encore lié avec le sang. Hébreux 10, 19 et 20. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le lieu très saint, dans le sanctuaire, hein, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous avons une libre entrée. Pour le croyant juif, le croyant hébreu, le lieu très saint était fermé. Jamais il n'allait rentrer dans le lieu très saint. Jamais il n'allait voir la Shekinah, c'est-à-dire la gloire de Dieu, hein, c'est comme ça qu'il l'appelait. Cette gloire qui était là entre les deux statues de chérubins, cette gloire qui était la présence sainte de Dieu, il ne pouvait pas accéder. C'était trop saint, lui, il n'avait pas le droit. Et ici, il dit, nous, par le sang de Jésus, nous avons une route nouvelle, une libre entrée. Avec la venue du Messie Jésus, la porte est ouverte. Le voile, enfin, ce n'était pas une porte, c'était un voile, hein. Très épais. Le voile a été déchiré, nous avons accès à Dieu. Pourquoi ? Parce que nous pouvons être lavés, justifiés par Jésus-Christ. Et on peut se présenter à Dieu pardonné. Donc c'est comme si on était sans péché. Hein. Sinon, on ne pourrait pas avoir accès à Dieu. On ne pourrait pas se présenter devant lui. Il suffit d'avoir une once, un milligramme de péché dans notre âme hein, pour être refusé par Dieu parce que Dieu est saint, il ne supporte pas la vue du péché. Mais quand on est revêtu de la justice de Christ, quand on est pardonné par la foi dans son sang, on peut entrer dans la présence sainte de Dieu. Et Dieu, il ne voit plus nos péchés, il voit Jésus-Christ en nous. C'est ça qui est merveilleux. Nous, on a du mal à le réaliser, ça. Parce que nous, on sait qu'on est encore pécheurs. Dis donc, tu ne vois plus mes péchés, mais moi, je les vois. Mais par la foi, on doit dire, Seigneur, tu m'ouvres l'accès à ta présence. C'est ouvert, c'est tout le temps ouvert. Il n'y a même pas des horaires, hein. C'est pas ouvert entre 9h et 12h et 14h et 16h. Hein. C'est tout le temps ouvert, nuit et jour. Et j'ai le droit d'y rentrer grâce à Christ. Alors je ne dois pas y rentrer en gonflant ma poitrine comme faisait le pharisien hein, dans la parabole de Jésus, hein. Je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont pécheurs. Moi, je suis quelqu'un de merveilleux. Non, on entre avec humilité dans la présence de Dieu. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui entrent dans la présence de Dieu. Beaucoup de chrétiens restent toute leur vie chrétienne en dehors du sanctuaire. Ils gardent cette timidité en disant « On n'a pas le droit, c'est Dieu est pur, moi qui je suis un pauvre pécheur ». Et ils ne saisissent pas cette vérité. C'est pour ça qu'il dit, il faut s'approcher dans la plénitude de la foi. Notez bien, il parle de la foi, là. Il ne parle pas des sentiments, par exemple, ou des émotions. Il ne dit pas, entrez dans la plénitude de vos sentiments, en disant, oh, je me sens attiré par Dieu, oh, Dieu est grand et merveilleux. Non, ce n'est pas non plus l'intellect, c'est dans pas dans la plénitude de l'intellect. Il ne s'agit pas de connaître le grec et l'hébreu ou faire 10 ans de théologie pour entrer dans le lieu très saint, il faut y aller avec la foi. Et la foi, même un enfant, et surtout d'ailleurs les enfants, peut l'avoir. Il faut avoir cette simplicité, cette sincérité dont il parle, et dire, Seigneur, tu m'ouvres la porte. Avant Christ, et avant que je croie en Christ, il y avait un mur. C'était même plus un voile, c'était un mur. Dans le prophète Ésaïe, hein, chapitre 59, il parle de cette séparation. C'est un très beau passage, 59, 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver. ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nos péchés mettaient un mur entre nous et Dieu, une séparation. Mais maintenant que Christ a ôté, enlevé ce péché par son sang, il n'y a plus ce mur, il n'y a plus cette séparation. On a accès à Dieu. Et nous sommes souvent comme les Hébreux de l'Épître aux Hébreux. On n'entre pas. On reste dehors. On dit, moi je suis un petit chrétien. Qui suis-je pour entrer dans la présence de Dieu? Et puis dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Peut-être que Dieu va me foudroyer. Parce que les Juifs avaient peur d'être foudroyés dans le lieu très saint. Et peut-être que Dieu va me demander des choses impossibles. Il va me dire, il faut que tu sois missionnaire au pôle sud, ou avec les ours blancs, ou chez les cannibales, ou je ne sais pas. Il va me demander des trucs terribles, ou il va me demander de tout vendre et de vivre nu ou à moitié nu sur une île déserte, je ne sais pas. Et on a plein d'idées humaines fausses. Mais s'approcher du Dieu vivant, du Dieu très saint, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas pour un missionnaire qui a fait 20 ans dans un pays missionnaire. Ce n'est pas pour les pasteurs ou pour les je ne sais pas qui. C'est pour tout croyant qui est dans la plénitude de la foi en Jésus-Christ. Seigneur, par ton sang, la porte est ouverte et je peux découvrir le Dieu saint. Je peux entrer dans ce lieu très saint. Cette pièce qui était pour moi mystérieuse, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Il y avait ce voile en permanence. Et puis là, vous ouvrez le voile et vous entrez. Et là, vous êtes face à Dieu. Il y a quelques chrétiens qui, dans la prière, sont approchés de Dieu comme ça. Et qui ont eu ce goût, ce désir. David, il dit, je cherche ta face. David, il aimait chercher la face de Dieu. C'est ça, chercher la face de Dieu. C'est vouloir rencontrer Dieu face à face. Moïse rencontrait Dieu face à face dans la tente d'assignation. Josué, qui était le second de Moïse, lui aussi, il aimait. Et souvent, quand Moïse partait s'occuper du peuple, Josué, il restait dans la tente. Il aimait être dans cette tente. Samuel était quelqu'un qui aimait être dans la tente, dans le sanctuaire. C'était des hommes, et il y a des femmes aussi, bien sûr, qui aimaient la présence de Dieu. Est-ce que je suis dans la religion ou est-ce que je suis dans la présence de Dieu? Est-ce que je suis dans le parvis, là, du temple, à l'extérieur, en disant un petit peu, c'est bien d'être croyant, moi je suis à moitié croyant, mais bon, j'espère que ça ira. Et puis un jour, vous éloignez petit à petit, et puis un jour, vous vous retrouvez en dehors du temple, parce qu'au fond, vous n'avez pas saisi par la foi tout ce que Christ a fait pour vous. Vous n'avez pas compris que le sang de Jésus-Christ à ôter la séparation, le voile, le mur, le péché, et qui vous donne une libre entrée. Vous n'êtes pas venu avec la plénitude de la foi. Et là, nous sommes responsables. Dieu ne peut pas nous forcer. C'est à nous de dire, Seigneur, je crois entièrement que j'ai accès à ta présence. Quand on fait ça, nos prières vont être différentes. Quand vous priez dans le sanctuaire, ce n'est pas comme prier dans le parvis. Dans le parvis, Dieu est loin, il est là-bas dans la pièce cachée. Seigneur, si tu m'entends, j'espère que tu vas m'écouter et que tu vas peut-être exaucer mes prières si ça se passe bien. Si, mais je ne le mérite pas, mais je suis très loin, mais bon. Alors que quand vous êtes dans le sanctuaire, vous parlez avec Dieu face à face. Mon Père, je ne suis pas digne, c'est vrai, mais par le sang de Jésus, tu peux entendre ma prière. Ça va changer notre vie chrétienne. On ne va plus vivre une religion où il faut faire des choses pour plaire à un Dieu lointain, où on n'est jamais sûr d'être sauvé, jamais sûr là où on en est, et où on se refroidit si vite. Quand vous rentrez tous les jours dans la présence de Dieu, quand vous vivez dans cette présence sainte, vous êtes transporté. Connaître Dieu, c'est la chose la plus passionnante qui soit. La vie éternelle, a dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent. Il n'a pas dit la vie éternelle, c'est qu'ils fassent des œuvres religieuses, qu'ils fassent des programmes religieux. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Est-ce que je connais Dieu? Est-ce que je commence? On ne va jamais le connaître. Il est infini. Mais on peut commencer à le connaître, on peut s'approcher de lui, chercher sa face. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face, je cherche ta face, ô Éternel. David, hein, encore, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Est-ce que vous soupirez après Dieu, ou est-ce que vous soupirez après l'Église, ou après je ne sais pas quelle expérience mystique? Est-ce que c'est Dieu que vous cherchez? Est-ce que vous rentrez dans le lieu très saint, purifié par le sang de Christ? Ce sang nous réconcilie une fois pour toutes avec notre Dieu. Colossiens 1:21, vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, Jésus vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. La mort, le sang de Christ, nous réconcilie une fois pour toutes avec Dieu. Nous ne sommes plus étrangers, nous ne sommes plus séparés. Nous sommes maintenant dans la famille de Dieu une fois pour toutes et nous avons accès à notre Père. Alors profitons-en, utilisons cette libre entrée. Ne soyons pas des chrétiens timorés, des chrétiens froids, tièdes, des chrétiens qui restent sur le parvis de loin, qui suivent la vie chrétienne de loin, mais soyons des chrétiens entiers. Qui vivent dans la présence de Dieu. Et que le Seigneur nous aide.